Edit me by pasting your content here, min. 20 words. Mais la suite du récit de S. Luke nous montre combien, paradoxalement, il est difficile de l'accueillir quand on est riche. Et cela est fondamental si nous voulons comprendre pourquoi nous éprouvons tant de difficultés à pardonner aux autres le mal qu'ils nous ont fait. Si l'Évangile nous le demande, cela n'est pas quelque chose au-dessus de nos forces à partir du moment où nous-mêmes, nous accueillons le pardon, la grâce de Dieu, qui nous donne gratuitement le royaume. Si nous n'accueillons pas cette grâce comme une grâce, si nous continuons de compter sur nos propres richesses pour essayer d'entrer dans le royaume, évidemment, le pardon devient non seulement difficile mais vraiment impossible.
C'est ce qui explique que tant qu'Israël vivait dans l'attente de cet aujourd'hui de Jésus, de cet accomplissement des prophéties, le vrai pardon des frères, que Jésus demande, n'était pas encore possible. Cela ne veut pas dire que tous les Juifs vivaient dans la haine et la rancune. Car dans la mesure où la grâce de Dieu avait commencé à être donnée partiellement et ponctuellement, cette grâce partielle et ponctuelle pouvait déjà, dans la mesure où elle était aussi effectivement accueillie avec un cœur de pauvre, porter de beaux fruits. L'attitude de David envers Saul, première lecture, en constitue un bel exemple. Saul est tombé en disgrâce devant le Seigneur, car il n'a pas obéi. Lui qui, sans aucun mérite de sa part, avait reçu du Seigneur le pouvoir de diriger le royaume d'Israël, s'était peu à peu approprié cette grâce. Il n'était plus ce pauvre à qui le Seigneur avait fait miséricorde. Il n'était plus le bon gérant de cette grâce. Il s'en était fait le propriétaire en agissant à sa guise, au lieu d'écouter la parole que le Seigneur lui adressait par la prophète Samuel. David est alors celui que le Seigneur a choisi pour lui succéder. Personne, pas même son propre père, n'avait songé à lui. Mais c'est lui, le pauvre petit berger, que le Seigneur est allé chercher de derrière les troupeaux, de préférence à ses frères, pour en faire le roi d'Israël. David, contrairement à Saul, est profondément marqué par cette grâce. Et c'est cela sans doute qui fera qu'il ne commettra jamais aucune faute envers Saul, qui pourtant le persécute sans raison. À ce moment-là, David ne dira pas « Comment ? J'ai fait tant de choses pour toi. En jouant de la musique pour toi, j'ai adouci tes muresses et rendu la paix à ton âme tourmentée. Par mes prouesses militaires contre Goliath et l'armée des Philistins, j'ai apporté la sécurité à ton royaume. Et maintenant tu me persécutes ? Tu en veux à ma vie ? Ça ne va pas se passer comme ça. Trop c'est trop. » Le récit nous montre alors qu'effectivement, David aurait eu l'occasion de se venger et d'éliminer son rival qu'il surprend en pleine nuit en train de dormir. Abishaï, son frère d'armes, le lui suggère, il ne le fait pas. Il n'étendra pas la main sur Saul. Mais son refus de rendre le mal pour le mal n'est pas encore le pardon des offenses que Jésus demandera plus tard. David, au contraire, pense que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mieux encore, il thésaurise la vengeance à intérêt composé, comme le disait le père Barthélemy, mon professeur de théologie de l'Ancien Testament. Il amasse des charbons ardents sur la tête de son ennemi, voir psaume 25, 21 à 22, Romains 12, 20. Attitude très vétérotestamentaire, mais dont David est l'initiateur. Refuser de se venger est senti par lui comme un gage de protection divine pour l'avenir. En effet, alors que la vengeance rééquilibrerait perpétuellement la balance de la justice divine, le renoncement à la vengeance augmente systématiquement le déséquilibre et force la justice divine à prendre parti.